Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans la longue nuit mérovingienne qui dura du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle, d'innombrables souverains se succédèrent sur le trône du Regnum Francorum, le royaume de France primitif. De Clovis II à Sigebert III, en passant par Dagobert III et Childéric II, la liste des rois francaliens donne le tournis. Et bien malin qui peut se vanter d'être capable d'en citer ne serait-ce que deux ou trois assortis de leur bon numéro. Parmi eux, un roi sort évidemment du lot, Clovis Ier, celui du baptême à Reims par l'évêque Rémy et du vase de Soissons. Mais qu'il s'agisse de nommer une femme, une seule, et alors là, à coup sûr, un nom, un seul, sortira toujours du chapeau, Frédégonde. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous emmène sur les traces sanglantes de la terrible Frédégonde, la plus grande serial killeuse de l'histoire du Regnum Francorum. Seconde partie, la série noire. Après l'assassinat de sa belle-sœur, Sigebert réplique. Il se fait proclamer roi des Francs occidentaux, mais selon Grégoire de Tours, c'est à ce moment-là que Frédégonde, qui est donc sa belle-sœur, lui expédie deux sicaires, les sicaires ce sont des serviteurs assassins, qui l'estourbissent à coups de scramassacs empoisonnés. Alors les scramassacs, il faut le savoir, ce sont les longs couteaux mérovingiens. On est alors en 575. Après avoir tué la sœur de Brunehaut, voilà maintenant qu'elle élimine son mari, Sigebert. Selon la chronique de Saint-Denis, elle se serait adressée en ces termes à ses assassins, histoire de les galvaniser. « Sigebert veut notre ruine et la mort de son frère. Assassinez-le dans sa tente. Si vous revenez vivant, je vous comblerai de tant d'honneur que personne avant vous n'en aura eu de semblable. Si vous périssez, je ferai dire tant de messes et de prières, je ferai distribuer tant d'aumônes que Saint-Pierre sera forcé de vous ouvrir les portes du paradis. » Sigebert est de deux. Débarrassé de son frère, Chilpéric s'empare de Paris. Ou rappelons-le, il n'était pas censé mettre les pieds sans la permission de son dernier frère, Gontran. Et puis, il fait Brunehaut prisonnière. Il l'expédie à Rouen, ville dont l'évêque est un certain Prétexta. Mais Brunehaut, aussi belle et déterminée que Frédégonde, parvient à séduire l'un des fils de Chilpéric, un certain Mérové que Chilpéric avait eu avec Audovaire. Vous suivez toujours ? Influencé par son parrain, qui est justement cet évêque Prétexta, Mérové, qui alors a 20 ans, s'est mis en tête d'épouser Brunehaut, ce qui va lui permettre de se positionner à la fois comme héritier légitime de Chilpéric, son père, et de mettre un pied en Austrasie par son mariage. Cette idée n'a pas l'air de plaire à son papa, qui le fait arrêter, tonsurer, signe de grosse colère chez les Mérovingiens, et enfermé dans un cloître. Sachant que ses heures sont comptées et qu'il risque d'être atrocement torturé, Mérové supplie Galien, son meilleur ami, de le tuer, un genre de suicide assisté. Galien s'exécute, mais ce faisant, il prive Frédégonde d'une jubilatoire séance de torture. Il devra en répondre. Dès qu'elle sera parvenue à lui mettre la main dessus, elle lui fera couper le nez, les oreilles, les mains et les pieds. Mérové et Galien, et de quatre. Dans les mois qui suivent, disparaissent un autre fils de Chilpéric, Clovis, retrouvé assassiné dans sa cellule, dont Frédégonde a réussi à convaincre son mari qu'il complotait contre lui. Puis Audovaire disparaît également, elle est assassinée, et sa fille Basine aussi, torturée, violée, assassinée. Comme on ne prête qu'aux riches, on soupçonne Frédégonde d'être à l'origine de ces trois morts. Clovis, Audovaire et Basine, et de sept. Autour de Frédégonde, les morts s'accumulent. Elle s'est débarrassée des deux premières femmes de son mari et de leur fils, mais elle-même n'a pas pour autant le moral au beau fixe, car entre 575 et 584, elle perd ses quatre fils. Dans une atmosphère familiale aussi tendue, elle choisit de ne pas annoncer l'heureuse nouvelle de la naissance de son petit Clotaire, histoire de protéger le seul de ses héritiers qui soit encore vivant. Elle le fait cacher dans la villa de Vitry-en-Artois. Son mari, Chilpéric, n'a guère le temps de se réjouir d'être à nouveau père, car il est lui aussi assassiné à Chelles un soir de septembre 584 alors qu'il revenait de la chasse. Par qui ? Alors là, ça se complique. Soit sur l'ordre de Brunehaut, soit sur l'ordre de Frédégonde, qui, depuis quelque temps déjà, aurait eu un amant, Landry, le maire du palais, dont le nouveau-né, Clotaire, serait du coup peut-être le fils. Grosse embrouille. Fin de l'histoire pour Chilpéric et désordre général en Neustrie, dont les seigneurs pillent le trésor royal, les absents ayant toujours tort, surtout lorsqu'ils sont morts. Dans les 3 ans qui vont suivre la mort de Chilpéric, de 594 à 597, c'est Frédégonde qui exerce le pouvoir seule. 2 femmes au pouvoir, 2 veuves, Frédégonde et Brunehaut, et entre ces 2 âmes de fer, la haine à mort. Chilpéric est de 8. Les choses ne s'arrangent pas entre Frédégonde et Brunehaut. La reine d'Austrasie fait le siège devant Paris avec son fils Mérovée, à ne pas confondre avec le Mérovée, fils de Chilpéric, dont nous venons de voir qu'il avait été estourbi par son copain gallien dans un couvent. Elle exige de Gontran que lui soit livrée Frédégonde, qui selon elle a assassiné Sigebert, Chilpéric et les princes Mérovée et Clovis.
Elle sentait en son cœur fermenter les fureurs de la vengeance.
Frédégonde est à son tour expédiée par Gontran à Rouen et placée sous la surveillance de l'évêque Prétexta. Que cela ne tienne, elle le fait assassiner en pleine messe. Après avoir commis cet acte, l'assassin qu'elle a commandité s'enfuit. Frédégonde se rend au chevet de Prétexta, mourant. Elle s'afflige faussement de son sort. Elle lui propose son médecin.
« Dieu m'appelle, les soins sont inutiles. Toi de qui sont venus tous ces crimes ? Tu seras maudite dans tous les siècles et tu paieras à Dieu le prix de mon sang. »
Après quoi, à ce proche de l'évêque qui vient l'agonir de reproches et d'injures pour avoir fait assassiner Prétexta ignominieusement, Frédégonde sert une coupe de vin empoisonnée. L'évêque Prétexta et son champion est de 10. À ce stade, résumons-nous. Frédégonde assure la régence sur la Neustrie pour le compte de son fils Clotaire II. Et Brunehaut en fait autant pour le compte de son fils Childebert II. Frédégonde cherche à faire assassiner Gontran et Brunehaut. Selon Grégoire de Tours, le sicaire, donc l'assassin qu'elle envoie à sa belle-sœur, est découvert. Brunehaut le lui renvoie après lui avoir fait couper une main et un pied. Brunehaut semble avoir davantage d'humour que son adversaire. Gontran va prendre Frédégonde de court en se rabibochant sur son dos avec Brunehaut. Il adopte Childebert II, puis cette harmonieuse famille recomposée signe le traité d'Andelot en 587 par lequel le roi qui survivra à l'autre deviendra souverain des 2 royaumes. Gontran assure ainsi un rôle d'arbitre entre ses 2 neveux. Pour une fois, un engagement sera respecté et c'est Childebert II qui, à la mort de Gontran, deviendra effectivement roi d'Austrasie et de Bourgogne. En 597, Frédégonde meurt paisiblement de sa belle mort dans son lit, entourée de l'affection de ceux des siens qu'elle n'a pas eu le temps de tuer. Punition divine, Brunehaut perd son fils Childebert II la même année. Ses 2 petits-fils, Théodebert et Thierry II, vont se partager l'Austrasie et la Bourgogne. Leur grand-mère les pousse à poursuivre la faillite de la vengeance en allant se battre contre Clotaire II. Bon, pour faire vite, résumons ça en quelques mots. Échec total, tonsure générale et bain de sang. En 613, Brunehaut a alors plus de 80 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque. C'est donc sur une très vieille dame que Clotaire II va achever la sale besogne entreprise par sa défunte mère Frédégonde. La mort atroce de Brunehaut est entrée dans l'histoire. Attaché par les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval sauvage, après avoir été exposé nu au dos d'un chameau, son corps mis en lambeaux et brûlé. La postérité blâmera Frédégonde et Clotaire, mais tous les nobles d'Austrasie ont exigé cette vengeance sur Brunehaut pour que soit à jamais effacée sa mémoire. Fin de Brunehaut. Ici, elle eut aussi sa bonne part de crimes et d'atrocités, avait, nous disent les historiens, le génie d'une grande femme d'État. Et de 11. À côté de ses victimes présumées les plus connues, Frédégonde aurait fait couper oreilles, nez, pieds et mains à un grand nombre d'individus. Et puis, il manque également une victime de taille au tableau de chasse évoqué plus haut, une survivante, sa propre fille, Rigonte. Mère et fille ne s'entendaient pas du tout, dit Xite Grégoire de Tours. Elles se chamaillaient à longueur de journée et se battaient à coups de poing. Pour amadouer sa fille, Frédégonde lui propose de se servir dans un coffre contenant toutes sortes de parures et de joyaux que lui a laissé Chilpéric. « Tu m'importunes sans cesse et tu me reproches de ne pas te donner ta part des richesses de ton père. Viens, je vais te montrer tout ce qui me reste de lui. Tu pourras en prendre ce que tu voudras et en user selon ton bon plaisir. » Dès que Rigonde se penche sur le coffre, Frédégonde enferme violemment le couvercle de manière à faire à sa fille le coup du lapin. Elle appuie si fort que les yeux de Rigonde sont à deux doigts de lui sortir des orbites. Une suivante de Rigonde se précipite pour la libérer, lui sauvant la vie in extremis. Avoir voulu auxir sa fille, sa propre chair, c'est l'abomination de l'abomination. Frédégonde aurait donc au bas mot le sang de dizaines de personnes sur les mains. Mais peut-on trouver quelques arguments pour plaider en sa faveur et alléger quelque peu le poids de sa responsabilité? Il existe très peu de sources sur cette époque et bien sûr, selon celles qui sont évoquées, Frédégonde est décrite comme plus ou moins démoniaque. Grégoire de Tours la décrit comme une femme cruelle et dévorée d'ambition, mais lui-même est le héros de Sigebert, roi d'Austrasie, marié à Brunehaut. Lorsque les rois francs ont investi la France, les évêques ont joué un rôle très important, s'opposant à eux, exerçant un pouvoir civil auquel ils n'étaient pas habitués pour tenter de maintenir l'ordre au sein des grandes cités et d'en protéger les populations. Ayant épousé la cause de Sigebert et Brunehaut, Grégoire de Tours ne peut être que dans le camp du bien. Le camp d'en face est donc forcément celui du mal et le salir est quasiment œuvre pieuse. Si en revanche, on lit Frédéguerre, alors lui, il est farouchement hostile à Brunehaut. Certes, Frédégonde a du sang sur les mains, mais à y regarder de plus près, ses crimes sont avant tout des crimes politiques. Elle vit dans une époque où l'on s'entretue quotidiennement pour le pouvoir. Elle ne fait que se conformer aux pratiques gouvernementales musclées du moment. Et pour ce faire, elle a l'intelligence de se concilier le puissant lobby des Leudes. Les Leudes, c'étaient des membres de la haute aristocratie, de fidèles guerriers liés au roi par un serment, le Leudesarium. Par ailleurs, l'époque est cruelle, certes, mais elle permet quand même à deux femmes de diriger leur royaume. Quels autres exemples en avons-nous dans l'histoire de France, hormis Blanche de Castille, Louise de Savoie et Catherine de Médicis? Enfin, Frédégonde n'a pas toujours été vue comme une horrible souveraine, adultère, luxurieuse, meurtrière. Au XIIIe siècle, quand Blanche de Castille exerce la régence et qu'il faut montrer que les femmes peuvent être de bonnes administratrices, eh bien des ouvrages à la mode décrivent Frédégonde comme une reine sage et capable. Quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller dire une petite prière pour le repos de l'âme de la douce Frédégonde, il suffit pour cela de se rendre à l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, où ses ossements achèvent de se dissoudre dans le sol, ou encore à la basilique Saint-Denis, dans le 93, où l'on peut admirer sa magnifique dalle funéraire. Quant au tombeau de Brunehaut, il se trouvait dans l'abbaye Saint-Martin d'Autun. Il a été ouvert le 25 août 1632 en présence d'une foule nombreuse afin de savoir s'il contenait réellement ses restes.
On y trouva la poussière de ses os mêlée à quelques charbons. On trouva aussi parmi ces tristes débris l'éperon qu'on avait attaché au flanc du coursier pour le rendre plus furieux et qui, tombé par hasard dans les vêtements de Brunehaut, fut jeté avec elle dans le bûcher et recueilli avec ses restes.
Le coffret fut remis dans le sépulcre avant de disparaître en 1793 dans la tourmente révolutionnaire. Et dire qu'en ce moment même, l'un d'entre nous possède peut-être, sans le savoir, dans sa boîte à clous, l'éperon du coursier furieux de Brunehaut, assassiné par le fils de Clotaire, fils de l'immonde Frédégonde. Comment conclure cette sanglante histoire de haine entre Frédégonde et Brunehaut, les deux seules mérovingiennes ou presque dont l'histoire ait retenu le nom? Peut-être avec ce proverbe arabe selon lequel
« Deux scorpions dans le même trou, s'accommode mieux que deux sœurs dans la même maison.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.